Bonjour à tous. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. L'espérance. Quelle est notre espérance? Je vous invite à lire dans Hébreux, chapitre 6. Du verset 9 au verset 20. Il est dit, quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui était promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-dedans du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Quelle est notre espérance? Au verset 19, il est question d'une espérance, comme nous l'avons lu, d'une ancre de l'âme. Une ancre, nous savons, c'est quelque chose qui tient un bateau solidement attaché au fond de la mer. L'ancre est symbole de solidité, de sécurité, donc d'espérance. L'ancre évite, comme tous nous le savons, que le bateau soit poussé par le vent ou le courant sur les rochers ou peut-être sur un banc de sable. Elle doit reposer sur un fond solide. Ici, pour nous, nous l'avons entendu, c'est le lieu très saint, le lieu de l'accès à Dieu. Cette ancre accroche le fond de la mer en espérant que le fond de la mer tienne bien. Et nous savons que le bateau, une fois que l'ancre est bien ancrée, va tenir bon. Mais si l'ancre se désancrait, c'était le naufrage, le drame. Dans ce texte, si cette espérance est comme une ancre, c'est une image qui peut nous donner à réfléchir, d'autant plus que cette ancre pénètre, nous l'avons lu, au-dedans du voile. Verset 19, c'est-à-dire dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Un lieu privilégié et particulier qui, dans la première alliance, avait une très grande signification. Lieu de l'accès à Dieu. Et l'encre symbolise, nous l'avons dit, la solidité, la sécurité, donc l'espérance. Cependant, on a aussi une grande signification dans la nouvelle alliance par l'œuvre de Jésus-Christ. Dieu a fait serment, nous l'avons lu, à Abraham. Il a juré, verset 14, c'est une promesse certaine, je te bénirai. Certainement, je te bénirai, dit le texte. L'auteur aux Hébreux dit que Dieu montre par là que cette promesse est irrévocable. Et aussi pour le serment. Cette promesse ne peut donc pas être détruite. Quelle est cette promesse? Quelle est cette promesse? En Genèse 12, lorsque Dieu a parlé à Abraham, il accomplit en réalité une promesse beaucoup plus ancienne. Car Dieu a parlé à nos ancêtres, Adam et Ève, nous le savons, après qu'ils aient désobéi, trahi la confiance de Dieu, et se soient détournés de Dieu, pour se tourner vers un autre, les serpents. Dieu a fait des promesses. D'abord, il a averti à l'homme et à la femme qu'ils subiraient des conséquences de leur désobéissance, qu'il y aurait de la souffrance, de la sueur. Nous savons tous, hein, transpirons pour travailler. La maladie, et qu'il y a la mort. Mais Dieu dit aussi, un jour viendra celui qui écrasera la tête du serpent et qui naîtra de la postérité de la femme. Et puis l'humanité s'est développée et la Bible nous dit que l'humanité était corrompue, que Dieu a décidé de submerger la terre par les eaux du déluge. Belle histoire. Dans sa grâce, Dieu a vu Noé, qui était juste et intègre. Et qui non seulement était juste et intègre, mais qui a manifesté sa foi par une œuvre, car Dieu lui a dit de faire une arche, et il a fait cette arche. Nous voyons qu'il faut quand même pour suivre Dieu, il faut la foi. Il faut la foi. La promesse de Dieu va se transmettre par Noé, d'abord, ensuite par Sem, un de ses trois fils, et plus tard par un descendant de Sem, qui est Abraham, dont nous parlons ici. Et Dieu dit à Abraham, en Genèse 12, versets 1 à 3, Dieu va lui dire, éloigne-toi de ton pays et va au pays où je t'indiquerai. Abraham a entendu l'appel de Dieu et a répondu à cet appel. En se levant et en quittant la maison de son père, en quittant sa patrie, et il recevra une double bénédiction. En fait, notre espérance, pour nous, c'est dans cette bénédiction qu'elle est, notre espérance. Cette bénédiction à Abraham. Verset 2, d'abord Dieu dit, je te bénirai et je te ferai devenir une grande nation. En parlant d'Israël. Ensuite, Dieu ajoute, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Nous voyons qu'il y a deux niveaux de bénédiction. Israël et ensuite les nations dont aujourd'hui nous faisons partie. Nous sommes ce que Dieu avait déjà prévu de sauver. Deux niveaux dans cette bénédiction. Premièrement, il y a les descendants d'Abraham qui deviendront une grande nation, le peuple juif. Et En Genèse 22, Dieu va renouveler, va confirmer ses promesses. Il va dire, verset 17 à 18, vers Genèse 22, il va renouveler ses promesses. Il dit, je te bénirai, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Nous avons besoin d'entendre plusieurs fois les promesses de Dieu. Une fois ne suffit pas, car nous savons tous que nous oublions tellement vite. Dieu va mettre Abraham aussi à l'épreuve. Vous voyez qu'il faut encore la foi. Malgré cette promesse de bénédiction, mais Dieu va mettre encore Abraham à l'épreuve. Il faut la foi pour suivre Dieu, pour vivre. Dieu veut que nous vivions par la foi. Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Abraham va offrir son fils, son enfant en sacrifice. Ça a toujours été mystérieux pour tout le monde, n'est-ce pas? C'est mystérieux. Mais c'est ainsi que la Bible nous le rapporte. Genèse 22, 15 à 18. Ici, de nouveau, il y a deux étapes. Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Dieu a fait avec Israël une alliance et l'alliance a été rompue. Dieu va offrir à Israël de se réconcilier à Dieu. Mais dans le règne d'une nouvelle alliance, le mot rompre est important. Est important. Le mot rompre est important. Jérémie 31, versets 31 à 33. Il est dit, voici des jours vont venir, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Verset 32, qui ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les sortir, les tirer du pays d'Égypte. L'alliance qu'ils ont rompue. Eux, alors que je les avais étroitement unis à moi, dit le Seigneur. Verset 33, mais voici quelle alliance je conclurai. Les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Avec un peuple qui lui appartient, qu'il appelle mon peuple, qu'il appelle mon fils, mon épouse, mais cette alliance a été brisée. Mais Dieu qui aime Israël propose à Israël de se réconcilier, de revenir à lui. Aujourd'hui, on sait que pour devenir enfant de Dieu, il faut se repentir. C'est ce que Dieu demande au peuple ici, de revenir à lui. Chacun, d'abandonner toute mauvaise voie. Convertissez-vous. Tous ces mots, c'est la même chose. Ce qui a été rompu, la première alliance, mais pour entrer dans le règne de la nouvelle alliance. Aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que tous, nous avons choisi de revenir à l'Éternel, de choisir cette nouvelle alliance pour vivre avec Dieu dans le règne d'une nouvelle alliance? Et toi, où en es-tu de ta réconciliation avec Dieu aujourd'hui? En disant nouvelle, Dieu montre par là que la première alliance est devenue ancienne. C'est Dieu qui dit nouvelle. Ce n'est pas nous aujourd'hui, mais c'est le prophète de la part de Dieu. Et ce qui est ancien doit, nous le savons, nous l'avons bien souvent entendu, doit disparaître. Dieu ne vit pas avec deux alliances et les hommes. Dieu vit avec une alliance et c'est maintenant avec une nouvelle alliance. Et c'est là que la deuxième partie de la bénédiction de Dieu à Abraham s'accomplit. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et pour bien nous montrer que Dieu accomplit cela, il va instituer la nouvelle alliance. Dans Jérémie 31-32, nous avons « Dieu dit bien, qui ne sera pas comme l'alliance conclue en Égypte. » Il s'agit de la délivrance de l'Égypte. Par le sacrifice de l'agneau, qui a été pour Israël le moyen d'être sauvé. Sauvé de la colère de Dieu sur le pays. Israël a prévu pour cela un agneau. Ils l'ont immolé. Ils ont mis à l'extérieur le sang sur les pontons de la porte. Et à l'intérieur, ils ont mangé l'agneau. Et Dieu a manifesté par là son alliance. Il a ensuite renouvelé son alliance au Sinaï, à Jérusalem, par les prophètes. Mais c'est une alliance qui a été rompue. Nous l'avons lu dans le texte de Jérémie. Et quand Jésus vient au milieu des hommes, il viendra au cœur de la nation juive. Il naîtra d'une mère juive, Marie, dans la ville prévue à cet égard, Bethléem, dans la tribu de Juda. Et quand Jésus accomplira son ministère, son œuvre, il se révélera à tout Israël tout entier. Il manifestera sa puissance, son autorité. Il vient pour accomplir là cette nouvelle alliance. Et c'est dans le repas de Pâques qui symbolise la première alliance que Jésus va instituer la nouvelle alliance. Luc 22, verset 1, dit « La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. » Et au verset 7 et 8, il dit « Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez, nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Et verset 19 et 20, « Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Verset 20, « Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est prévue pour vous. » Nous voyons ici apparaître, au verset 20, le terme d'alliance nouvelle. Nouvelle alliance. C'est dans ce repas que Jésus ouvre le règne d'une nouvelle alliance. De cette nouvelle alliance, il est dit que c'est son sang. Et au verset 19, et c'est son corps qui est brisé. Il est en quelque sorte l'agneau de la nouvelle alliance. Et pour bien nous montrer que la nouvelle alliance repose sur la première alliance, Dieu fera en sorte qu'il y ait des signes. Premièrement, il est dit « Aucun des os du Messie n'a été brisé ». Dans la première alliance, nous avons dit que cet agneau de Pâques, il fallait manger cet agneau et prendre soin qu'aucun des os ne soit brisé. Et quand Jésus meurt sur la croix et qu'il représente l'agneau de la nouvelle alliance, Dieu voudra donner comme signe qu'aucun des os ne soit brisé. Jésus a été mis dans le tombeau d'un riche, nous le savons. Et là encore, c'est pour accomplir une prophétie d'Ésaïe 53, verset 9, ton tombeau a été celui d'un riche. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait commis de violence. On sait aussi qu'on a partagé ses vêtements, tiré au sort sa tunique. Il y a toutes sortes de détails que nous pouvons trouver dans la Bible, que Dieu a voulu garder, accomplir, pour que nous sachions que tout cela fait partie de l'héritage de l'espérance. Quand Dieu dit à Abraham qu'il deviendrait une grande nation et je te bénirai, Dieu parle au peuple juif. Et quand Dieu dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en toi », Dieu parle des nations, mais aussi d'Israël, parce que tout le monde doit être sauvé. Alors on comprend mieux pourquoi Jésus, quand il parle avec la femme samaritaine, au chapitre 4 de Jean, pourquoi Jésus dit à cette femme « Le salut vient des Juifs », verset 22. C'est parce qu'au fond, le salut pour les nations, la délivrance pour les nations va venir dans le peuple juif. Mais le peuple juif aussi a besoin de salut. Parce qu'aucun juif n'est sauvé par lui-même. Il n'est sauvé que par le salut de Dieu. Et Jésus signifie le salut. Il est le sauveur. Il est le sauveur. Il est vraiment le salut. Le salut de tous les hommes, de toutes les nations. Le salut vient des Juifs, c'est-à-dire que Dieu avait choisi que les hommes soient sauvés par Jésus. Il y a une sorte de logique interne à l'Écriture qui se retrouve en Luc 2, verset 25 à 32. C'est un texte qui nous parle du début de la vie du Messie au milieu d'Israël et dont un homme, Siméon, dont la Bible dit au verset 25 qu'il était juste et intègre. Ça me rappelle Noé que nous avons lu, que Dieu a vu qu'il était juste et intègre. Et que le Saint-Esprit, verset 26, l'Esprit de Dieu lui avait dit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le salut de Dieu. En quelque sorte, l'espérance de Dieu pour Israël et les nations. Et lorsque Marie et Joseph amènent l'enfant au temple, à Jérusalem, l'enfant qui a été circoncu et qui maintenant va être présenté au temple, il nous a dit que Siméon, en le prenant dans ses bras, versets 28 à 32, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Jésus signifie « salut ». Il est vraiment le salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Ce texte paraît pour nous très significatif parce que c'est la lumière pour éclairer les nations. La lumière pour éclairer les hommes venus dans le monde pour sauver. Cette lumière, c'est Dieu qui la donne. Si j'ai quelque chose à vous dire, c'est Dieu donne, prenez. Dieu la donne aux nations, qui est l'héritage promis à Abraham. C'est la gloire de Dieu. Luc 2, 32. En Jésus, c'est la gloire. C'est notre privilège. Vous savez, je ne sais pas, peut-être que si vous l'avez dit, moi, je n'aime pas cela. Il y a des gens qui disent, j'ai de la chance d'avoir rencontré Jésus. Ce n'est pas une chance, hein. Vous avez pu perdre, n'est-ce pas? Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un hasard. C'est une grâce. C'est notre privilège. Alors, évitez de dire chance quand vous êtes devant moi, hein, parce que je vais vous reprendre. Voilà. C'est un privilège que Dieu nous donne de le rencontrer. Plaçons notre fierté, notre gloire en Jésus-Christ. Il est celui qui incarne les promesses faites à Abraham. Ce qui fait, alors quelle est notre espérance? C'est terminé. Notre espérance, elle est dans l'amour de Dieu pour nous. L'amour de Dieu qui sauve. Nous voyons tout ce que Dieu veut, c'est sauver, délivrer. Notre espérance est dans l'amour de Dieu qui pardonne. Il dit au peuple de revenir à lui, d'abandonner toute mauvaise voie, de se convertir. Repentez-vous. Notre espérance est dans l'amour de Dieu qui se réconcilie avec des hommes et des femmes coupables. En conclusion, nous allons lire Éphésiens, chapitre 1, versets 13 et 14, et verset 18. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. L'amour de Dieu délivre, et cette espérance est en Jésus-Christ, bien-aimé, pour le salut définitif et complet lors du retour du Christ. Aujourd'hui, nous avons un acompte de cet héritage qui est le Saint-Esprit. Et que tout aboutit pour célébrer la gloire de Dieu seul. Amen.